Le cercle rouge de Edgar Wallace. Chapitre 36. L'assemblée du cercle. Monsieur Raphaël Willings était de ces politiciens à la brillante carrière, dont les mérites sont si nombreux qu'on ne sait jamais s'il faut leur attribuer le portefeuille de la marine ou celui de l'agriculture. Ministre à moins de 40 ans, il n'était cependant pas populaire. On saluait en lui le bel orateur, l'homme remarquablement doué, mais il avait donné trop de preuves de versatilité, tant d'inconséquence dans sa souplesse, que l'opinion publique ne lui faisait pas grande confiance. Parmi ses collègues, il n'avait pas bonne réputation. On le ménageait parce que le vague troupeau des parlementaires opportunistes le suivait, mais il manquait de conviction. Il avait échappé à grand-peine à une citation à comparaître au cours d'un procès scandaleux. Et par deux fois, le cercle sélect dont il faisait partie avait reçu la visite de la police. Cela, d'ailleurs, à l'instigation de la femme d'un de ses collègues. En échange de quoi, les journaux à la solde de Willings avaient attaqué si malignement le mari de la dame qu'il avait dû se retirer de la vie publique. Willings était un homme de belle stature, candidat à l'obésité, un peu chauve. Dans l'ensemble, point déplaisant du tout. Il croyait ingénument qu'il avait été très habile en se faisant présenter à Talia. Et il eût été extrêmement mortifié s'il avait su que la dame qui avait fait la présentation en avait reçu l'ordre le matin même du Cercle Rouge. Cette association recrutait ses membres dans toutes les classes de la société. On y trouvait des comptables, un sous-directeur d'une compagnie de chemin de fer, un médecin, trois directeurs d'hôtel, parmi la centaine d'agents que comptait le cercle. Ils étaient tous bien payés et n'avaient pas grand-chose à faire. Quelquefois, il ne leur était demandé que de présenter l'une à l'autre deux personnes que le cercle voulait mettre en rapport. Mais, dans tous les cas, ils recevaient leurs instructions sous la même forme. Recrutés tous en un moment opportun de disgrâce, de malheur ou d'inquiétude, convoqués en d'étranges endroits, tout de suite pourvus d'argent, appelés assez rarement à des tâches toujours faciles, ils étaient restés pour la plupart fidèles à leur chef inconnu, malgré l'appât de la grosse prime offerte aux dénonciateurs. Aucun d'eux, d'ailleurs, n'aurait pu la toucher, étant tous absolument incapables de donner le moindre renseignement sur l'identité de leur patron. C'est ce qui arriva aux quelques peureux qui allèrent se confier à la police. Le Cercle Rouge avait d'ailleurs de remarquables méthodes d'espionnage. Par exemple, lorsqu'il convoqua pour la première fois ses adeptes en une sorte d'assemblée générale, en indiquant à chacun le déguisement à adopter pour n'être pas reconnu, même par les autres membres, aucun des traîtres ou des mécontents n'y fut appelé. Au cœur de Londres se trouvent plusieurs très vieilles églises, mais aucune n'est aussi ancienne que Sainte-Agnès. Échappée par miracle aux ravages du grand incendie, entourée de maisons plus hautes que son clocher, elle sert de lieu de culte à une congrégation dont les membres pourraient se compter sur les doigts d'une main. Cependant, un pasteur y prêche régulièrement, chaque dimanche, et l'intérieur en est bien entretenu. Elle était autrefois pourvue d'un cimetière attenant. Des immeubles de rapport s'élevaient désormais sur le champ de repos dont les hôtes avaient été transportés en de plus salubres retraites. L'entrée de l'église se trouvait au fond d'une impasse qui donnait dans une petite rue de ce vieux quartier. Et les ombres qui passaient vite de la ruelle dans l'impasse semblaient aller se perdre et s'évanouir devant les portes invisibles du vieux monument, dans une obscurité plus épaisse que la nuit même. Car c'était en l'église de Sainte-Agnès que le Cercle Rouge tenait sa première et dernière assemblée générale. Là encore, tout était organisé et prévu d'une façon merveilleuse. Chacun avait reçu des ordres précis, lui indiquant la minute même où il devait arriver, de telle façon que deux membres n'entrent jamais en même temps. Talia Drummond, dûment convoquée, se présenta à l'heure dite à la porte, immédiatement refermée derrière elle. Il n'y avait aucune lumière à l'intérieur. Seule une vague clarté filtrait à travers les vitraux.
« Allez tout droit !»
chuchota une voix.
« Et placez-vous au bout du second banc, à droite !»
Il y avait déjà d'autres personnes dans l'église. Deux ombres à chaque banc constituaient une sorte de congrégation fantomatique et silencieuse. Alors, l'homme qui s'était tenu près de la porte pour recevoir et placer les arrivants monta à l'autel. Dès ses premiers mots, Talia reconnut que les serviteurs du Cercle Rouge se trouvaient en présence de leur maître. Sa voix était sourde et étouffée. Talia supposa qu'il portait le masque dont elle l'avait vu affublé le jour où il l'avait recruté.
« Mes amis, dit-il, le moment est venu pour notre association de se dissoudre. Vous avez tous lu dans les journaux ma proposition au gouvernement. Vous êtes tous intéressés à sa réussite, étant donné mon intention de vous distribuer 20% des sommes à recevoir. J'avertis ceux qui craindraient une interruption intempestive que la prochaine ronde de police ne passe pas ici avant 1 heure et que le son de ma voix ne peut aucunement être entendu hors de l'église. »
Il s'arrêta une seconde pour reprendre d'une voix plus dure.
« Quant à ceux qui pourraient avoir l'idée de nous trahir et s'imagineraient qu'il était trop dangereux de nous réunir, je répondrai que toutes les précautions sont prises et que j'ai la certitude de n'être pas inquiété ce soir. Mesdames et messieurs, je ne vous cacherai pas que le Cercle Rouge est actuellement en péril. Deux fois, des circonstances imprévues ont été sur le point de révéler mon identité à la police. Le grand détective Yale est sur mes traces, ainsi que le chef de la sûreté Parr, qui n'est pas non plus un adversaire méprisable. À ce moment suprême, je n'hésite pas à réclamer de chacun de vous un effort extraordinaire. Demain, vous recevrez tous des instructions très détaillées et complètes. Rappelez-vous que vous courez les mêmes dangers que moi et que votre récompense en sera d'autant plus grande. Maintenant, retirez-vous un par un à 30 secondes d'intervalle, en commençant par le premier banc à droite, puis le premier à gauche, et ainsi de suite. Allez !»
Les ombres se retirèrent ainsi, lentement, et selon l'ordre indiqué. L'orateur attendit que l'église fût vide, puis sortit à son tour,
traversa l'allée et, une fois dans la rue, se mit en quête d'un taxi. Talia Drummond l'avait précédé de plusieurs minutes. Dans le taxi qui l'emportait à l'autre bout de la ville, elle enleva son grand manteau de pluie, son chapeau noir et sa voilette pour apparaître dans une robe de bal exquise. Quelques instants plus tard, elle entrait au Merrow's Club, où l'éclat de sa beauté fit sensation. Trop de sensations même, au gré de Jack Beardmore, qui se trouvait là avec quelques amis.
« Qui est-ce ? » demanda un des compagnons de Jack.
« Elle, je ne sais pas, » répondit un second. « Mais l'homme qui vient à sa rencontre n'est autre que Raphaël Willings, le ministre. » De son côté, Talia avait aperçu le jeune homme et maugréé intérieurement. Elle ne prêta qu'une oreille distraite aux propos de M. Willings, jusqu'au moment où un mot qu'il prononça lui fit dresser l'oreille.
« Des armes anciennes ? » dit-elle.
« On dit que vous en avez une très belle collection, Monsieur Willings. »«
Cela vous intéresse-t-il ? » ?»«
Oui, un peu. C'est-à-dire, j'adore ça !» répondit Talia, toute surprise elle-même de manquer d'à-propos.
« Alors, pourrais-je vous prier de venir une fois prendre le thé chez moi, afin de vous montrer mes panoplies ?»
s'empressa de dire l'homme d'État.
« Il est si rare qu'une femme s'intéresse à ces choses-là. Voulez-vous demain ?»«
Non, après-demain, » dit hâtivement Talia. « Ou même peut-être le jour suivant. » Peu après, elle vit Jack s'en aller sans avoir seulement jeté un regard dans sa direction. Elle se sentit triste, car elle eût bien aimé lui parler. Et elle avait espéré qu'il s'arrangerait pour passer près de sa table. Monsieur Willings voulut la reconduire dans son auto, et elle le quitta avec un soupir de soulagement. L'immeuble dans lequel se trouvait son appartement était un peu en retrait, et une petite cour le séparait de la rue. Après avoir pris congé de son admirateur, Talia se disposait à franchir cette étroite cour de 5 à 6 mètres de largeur à peine, lorsqu'elle s'aperçut qu'un homme attendait dans l'ombre, un peu à l'écart de l'entrée. Elle s'arrêta, attendit que l'auto de Willings eût disparu, puis se dirigea délibérément vers l'homme. Il lui parla un instant à voix très basse. Elle lui répondit de la même façon. Puis, ils se quittèrent, sans se serrer la main. Elle entra dans l'immeuble et l'homme se dirigea vers la rue. Quoique rien dans son attitude ne le décelât, cet homme se savait suivi. Il avait attendu assez longtemps l'arrivée de la jeune fille et avait fort bien entrevu l'ombre qui se dissimulait sous l'auvent d'une boutique de l'autre côté de la rue. Cependant, sans se méfier de rien en apparence, il continua son chemin. Il savait bien que quelqu'un venait derrière lui, quelqu'un qui, à un moment donné, le dépasserait et chercherait à le voir. Il tourna dans une autre rue, plus faiblement éclairée, et ralentit le pas. Alors, l'espion le rattrapa juste sous un réverbère. Il tournait la tête pour apercevoir les traits de celui qui l'avait suivi, lorsque ce dernier, d'un geste brusque, l'abattit de 2 coups de poing au visage. L'espion tomba, et au même instant, sortirent de l'ombre 3 hommes qui se ruèrent sur lui. Lorsqu'il reprit ses sens, il aperçut pleinement éclairé la face de l'homme qu'il avait épié.
« Ciel ! »
s'écria-t-il.
« Vous ! »
« Cela ne vous servira pas à grand-chose de m'avoir reconnu, » dit l'autre en souriant.